Invivo, Christophe Zagaille.
Invivo vous emmène dans l'élevage de perroquets de Gérald Chabanier. Ce passionné d'ornithologie élève depuis 25 ans chez lui, à San Nicolau di Morgagne en Costa Verde, perroquets, gris du Gabon, youyou du Sénégal, soit une soixantaine d'oiseaux. L'occasion pour nous de découvrir son univers et le monde de l'ornithologie. Gérald, éleveur de perroquets, est dans Invivo sur RCFM.
Bonjour Christophe, merci d'être venu donc chez moi à l'élevage. Nous sommes vraiment amateurs, on n'est pas donc professionnels, j'entends dire élevage commercial. Hein. Donc amateurs, mais ça n'empêche pas d'avoir toutes les compétences pour. Sinon on ne pourrait pas détenir certaines espèces d'oiseaux que on va vous présenter. Donc bien ça a commencé depuis plus de 25 ans maintenant, hein. Ma fille a 26 ans, donc avec des perroquets, avec des gris du Gabon, on s'est passionné par cet animal, sur son intelligence, sur sa façon de vivre avec en compagnie d'êtres humains, avec d'autres animaux. Puis après, on a eu un youyou, qu'on appelle youyou, mais c'est du Sénégal, donc c'est du Sénégal. Puis petit à petit, on a vu que c'était vraiment un plaisir de s'occuper de ces animaux et une découverte, un apprentissage. Donc on s'est mis à apprendre avant d'avoir l'élevage que vous voyez actuellement. On a appris d'abord sur les textes de loi, sur comment vivre avec un perroquet et sur les besoins de chaque espèce. Parce que un youyou du Sénégal et un gris du Gabon, même s'ils sont tous les deux d'Afrique, mais dans leur biotope naturel, ils ne se connaissent pas. Toutes les espèces ne vivent pas en commun, donc ils n'ont pas du tout les mêmes codes de communication. Pour ce faire, nous, on n'a pas du tout encore le même code de communication. Donc, pour pouvoir répondre parfaitement du mieux que l'on peut à leur attente, il faut bien connaître l'oiseau. On a toujours été fan des animaux en général, et plus particulièrement des oiseaux. C'est toujours passionné de visiter des parcs animaliers, zoos, éleveurs, hein, tout genre, passer du temps avec des gens qui avaient de l'expérience, sans à l'époque pouvoir imaginer un jour qu'on allait franchir le pas et devenir nous-mêmes éleveurs. De là, on s'est fait un petit réseau, a commencé à apprendre, donc de là, ça nous a donné envie d'acheter des livres, de lire des livres sur les gros élevages, des gens passionnés, donc du continent. Et en Corse, après, on s'est dit, mais c'est bizarre, qu'il n'y ait pas d'éleveurs de perroquets en Corse. On a tout en Corse pour pouvoir permettre d'avoir une bonne vie pour ces oiseaux-là. Et on a commencé à rencontrer des gens, des éleveurs, donc qui sont des passionnés, tous comme moi. Hein, donc il n'y a pas d'élevage pro, parce qu'on élève les oiseaux en batterie et où on vend ça à prix cassé, hein. C'est pas du tout notre politique là en Corse, j'entends. Et petit à petit, on s'est mis à connaître des gens, notamment Monsieur Lobrèche, je le cite parce que c'est le plus vieux éleveur de perroquets de Corse. Ah oui, il avait jusqu'à 60 gris du Gabon, mais lui il est spécialisé là-dedans, c'est notre mentor. Monsieur, il a une connaissance extrême sur les gris du Gabon, d'une gentillesse extraordinaire. Et après, on s'est mis à rencontrer aussi donc notre vétérinaire attitré, Monsieur Stokaléric, qui est lui aussi un éleveur chevronné, en plus d'être vétérinaire. Donc là, c'est avec ça, on part bien, on part sur de bonnes bases, fiables, et surtout, on se trompe pas, quoi. Quand ça va à ces gens-là, on pose la question, on est sûr d'avoir la bonne réponse. On a créé un Facebook spécial pour les Corses, vous allez le voir. C'est pas déjà fait, il y a plus d'étrangers pratiquement que d'étrangers de non-Corses que de gens de l'île, mais il y en a quand même pas mal. Et les Corses, on est assez timide, on essaie à réserver nos passions, on les montre pas trop. Donc surtout dans ce domaine-là, bon, et petit à petit on a tissé notre toile avec des gens qui nous ont connus, qui sont venus voir à l'élevage, des gens qui élevaient d'autres espèces que nous n'avons pas, et puis des échanges, surtout dans le monde aviaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges entre éleveurs sur les façons de faire. Personne n'a la vérité. Vous allez avoir une façon de voir et d'élever vos perroquets. Moi, je vais en avoir une autre qui peut être complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'une est meilleure ou moins bonne que l'autre. C'est juste une question de feeling avec l'oiseau et bien sûr de respect des règles de communication avec l'espèce que l'on élève. Quand on achète un oiseau, Comme je le dis toujours, c'est pas comme si on achetait un animal de compagnie tel qu'un chien ou un chat. Un oiseau, un perroquet surtout, ça demande des sacrifices. Et par exemple, bon, moi j'en ai beaucoup, hein, on a à peu près une soixantaine, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais même si vous auriez qu'un gris du Gabon, donc ben, on peut pas l'emmener partout. Parce que c'est un animal qui est protégé. Donc déjà, pour en être bénéficiaire, il faut demander des autorisations à la direction des DSPP, anciennement service vétérinaire, qui eux vous délivrent une autorisation d'acquisition. Avec cette autorisation, vous pouvez aller voir un éleveur ou une animalerie en fait et acheter cet oiseau. Mais à savoir qu'après, il n'y a pratiquement aucune compagnie d'aviation qui prenne les oiseaux à leur bord. Certaines oui, mais dans la soute. Donc dans la soute, vous dites que ça sert à rien de faire voyager un perroquet. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est bien à savoir parce qu'on est après pas prisonnier de l'animal, mais on ne peut plus faire ce qu'on veut. Il faut partir en véhicule, oui on a le droit, à condition d'avoir des autorisations. Encore une fois, il faut demander à l'État, dire voilà, je pars en vacances à tel endroit, je pars d'un endroit A, je vais dans un endroit B, je reste tant de jours, est-ce que vous me donnez une autorisation? Et eux vous fournissent une autorisation, sinon sans cela, vous êtes chocolat. Ça, on parle du gris du Gabon, hein. C'est un animal qui est ultra protégé, et soumis vraiment après, avec d'autres oiseaux, donc sans autorisation, on est un peu plus libre. Je veux dire, bon, les animaux, ils sont classés par annexe. Donc annexe 1, comme moi j'en ai certains qui sont ultra protégés, qui sont réservés quand même à des gens qui savent comment les sauvegarder, on pourrait dire, parce que là on parle de sauvegarde, hein, de protection exactement. Annexe 2, ce sont les perroquets que tout le monde peut avoir, donc sans besoin d'autorisation particulière. Et l'annexe 3, ce sont les animaux tels que vous voyez derrière, par exemple comme les perruches là, qui sont considérés comme domestiques aujourd'hui. Donc on peut en avoir sans besoin de les déclarer. Éleveur, nous on ne veut pas vendre. Notre passion c'est de voir, d'élever et de le voir grandir l'animal, et après de rester avec. Mais des fois par surnombre, on est obligé. Ou parce que quelqu'un a envie et que nous on voit vraiment qu'avec la personne il sera bien. C'est pas un travail, c'est une passion, mais qu'une animalerie. Une animalerie, son commerce, c'est d'acheter des oiseaux aux éleveurs et de les revendre. Donc, même s'ils ont des sentiments envers les animaux, parce que ce sont quand même des passionnés, il faut arrêter de dire que les animaleries, ils sont nuls, c'est pas vrai. Hein. On est loin du compte quand on dit ça. Certaines sont pas compétents, comme certains éleveurs ne sont pas compétents, au même titre. Mais on n'a pas la même approche. Nous, quand on voit un bébé, on voit les œufs, on les mire, on regarde à l'intérieur, on voit que ça bouge. Comme si on a une femme enceinte, on regarde le bébé, on le touche, on le voit bouger, on a l'échographie. Mais nous, c'est en direct. Et après, on se prend d'amour, entre guillemets, pour cet animal. Donc, on n'a pas trop envie de s'en séparer. Eh oh, eh oh, oh yeah, oh yeah, coco, qu'est-ce que c'est? Eh oh, eh oh, oh yeah, oh yeah, c'est la fête des perroquets.
In vivo sur RCFM, dans l'univers de Gérald Chabannier. Cet éleveur amateur de perroquets nous accueille chez lui, à San Nicolao di Moriani, en Costa Verde.
Moi je suis passionné par les gris du Gabon, mais depuis toujours. C'est un oiseau qui apprend vite, et si on se donne du temps, c'est un oiseau extraordinaire. Il communique, il sait nous parler. Tous les oiseaux savent nous communiquer quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, après, il y a des oiseaux, par exemple, comme les perruches à collier, qui sont des oiseaux magnifiques. Au moins, voilà, on s'approche vers la volière. Hein. Donc, on a moins de rapports c'est avec eux. Bon, parce que peut-être ceux-là sont habitués à vivre en volière extérieure. Et donc, il y a que celle du milieu qui s'appelle Tamao. Tous nos oiseaux ont des noms. Hein. Nous, on a choisi de les nommer. Hein. Donc Tamao, qui a un peu plus d'affinité. Les autres, ils sont tranquilles. Ils ne cherchent pas trop le contact. On rentre dedans, ils nous feront rien hein, dans la volière. Hein, mais ils ne cherchent pas trop le contact. Or que les gris du Gabon et les autres cherchent le contact. Donc déjà, il y a cette approche. Donc si on veut des oiseaux d'ornement, bon, ça fait un peu de bruit hein, quand même. Mais les perruches à collier sont de super petits perroquets. Les décrire, la perruche à collier, alors là vous avez plusieurs coloris. Là vous avez le mâle, c'est celui qui a le collier prononcé. Tant qu'il n'y a pas de collier, on ne sait pas, parce que ce sont des jeunes ce que vous voyez là. Les jeunes n'ont pas de collier, donc on ne sait pas si c'est des mâles ou des femelles, à moins de les sexer par laboratoire, prise de sang. Hein. Donc on sait que elle devant c'est une femelle parce qu'on l'a on l'a fait faire parce qu'elle était elle avait un problème de piquage. Piquage c'est il se mutile ou s'auto-mutile mais on ne sait pas pourquoi. Bon. Et on a essayé avec le docteur Suckle de comprendre en faisant des analyses, rien médicalement parlant était fait pour qu'elle soit malade. Mais elle était piquée, elle se piquait. On a essayé de changer d'alimentation, pas ça non plus puisque tout le reste de la colonie, là, il y en a 12. Hein. Donc, tous les colonies ont la même alimentation. L'eau, elle est changée une à deux fois par jour. Hein. Donc, pas dans l'eau non plus. On a changé les jouets. Et en changeant les jouets, on s'est aperçu que c'était, vous voyez, comme quoi, hein, ça tient à rien. Si on n'est pas derrière, on ne peut pas le savoir. Donc, Tamao, là, maintenant, on la connaît parce qu'on les connaît tous. Mais vous ne pouvez pas savoir si je vous montre les photos d'avant et après, vous ne pouvez jamais être vraiment plumé. Hein. Donc, la spécificité, c'est qu'ils sont verts. Donc, comme ça, c'est le vert avec une queue un peu bleu turquoise. Ça, c'est ce que l'on trouve dans la nature à l'état sauvage. Nous, chez nous, on les appelle TS, type sauvage. Et au fond, qui se cachent, qui font les timides, c'est un couple alors de couleur bleue et blanche. Le mâle étant le bleu. Donc, après, il y a plusieurs coloris. On peut avoir du jaune, on peut avoir des bleus nuancés. Bon, après, il faut mélanger les... Voilà, ils sont là-bas, ils s'intéressent là, à nous voir. Vous voyez, c'est très curieux quand même, parce que elle a vu qu'il y avait quelqu'un qu'elle connaissait pas, qu'il y a quelque chose à la main qui intrigue du fait de... Vous me faites l'interview, donc il s'intéresse. C'est quand même le perroquet. Donc entre perruche et perroquet, il y a pas de différence. Hein. C'est, pourquoi perruche, pourquoi pas quoi. C'est des petites acidées, ça vient de l'origine là. Hein. Voilà, donc par contre, ça parle aussi. Eux, ils ne parlent pas, mais ça peut parler aussi, comme je dis souvent aux gens qui viennent visiter, tout bête crochu ont la possibilité de parler du fait que c'est par mimétisme. Voilà, donc ma fille avait une perruche ondulée qui parlait. Alors là, vous êtes en présence de Coca et Nini. Coca étant le mâle, donc et Nini, la femelle, âgée de 9 ans, 8 ans et 9 ans, quoi. Ce sont encore des jeunes perroquets. Le mâle se reconnaît alors par rapport à la couleur, qui est d'un gris plus foncé. Et bon, la queue est toujours rouge. Je vous dis là, bon, il n'y a pas d'autre couleur que celle-ci. Et la femelle, elle est plus claire. Vous voyez, dessus la tête du gris du Gabon. Elle est un peu plus plate. La femelle elle est plus dans les arrondis. Nini et Coca, on les a récupérés donc sur Toulon, un couple de personnes âgées qui ne pouvaient plus s'en occuper. Donc c'était des tout bébés à l'époque. Hein. Voilà, donc c'est des super oiseaux de compagnie. Coca, lui, le mâle étant plus en retrait. Nini, la femelle, elle est plus proche de moi. Hein. Donc le mâle est fait son travail de mâle, il est très sociable quand on les lâche, parce qu'on le lâche tous les jours. Hein. Le mâle va venir, mais il va pas trop venir faire des câlins. Or que Nini, elle va venir monter sur mon épaule, elle va être plus câline, on va dire. Il parle très très bien, hein. Là ça m'étonnerait parce qu'il y a du monde, hein. Mais il parle très très bien. Nini, ça va Nini, hein. Donc comme moi je suis fan de Star Wars, ben, ils font la musique de Star Wars. Bon, 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 mais c'est parfait. Sinon, quand on leur pose des questions, ils répondent. Alors, l'intelligence de ces oiseaux, c'est qu'ils parlent à propos. Ils vont pas dire tout n'importe comment. Si je vais plusieurs fois dans la cuisine, par exemple, ils vont pas me dire à tout à l'heure. Si je prends mon téléphone, un sac ou une veste, ils savent que je vais partir, donc ils me disent à tout à l'heure. Voilà, ou elle m'appelle Gérald, elle m'appelle Gérald de mon prénom. Quand elle me rappelle, elle m'appelle Gérald, en imitant la voix de ma femme. Alors, c'est trompeur. Coca, lui, il parle tous les deux très bien, mais Coca, lui, il a une diction des mots parfaite. Nini, elle va dire « à tout à l'heure ». Alors que Coca, il dit « à tout à l'heure ». Enfin, là, j'exagère, mais on comprend toutes les syllabes. Un perroquet, par définition, et surtout le gris du Gabon, ça se méfie. Et dès qu'il y a quelque chose qui apparaît au sein de leur entourage, qu'ils ne connaissent pas, ils se demandent qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on doit en avoir peur, est-ce qu'on n'en a pas peur. Alors comme ils me voient à côté de vous, je dis bon, s'il est à côté, c'est que ça doit aller, mais quand même, ils gardent leur distance. Hein. C'est pas du tout, je répète encore une fois, comme un chien qui va venir vous voir, il vous connaît pas, il va vous faire la fête. Voilà. Un perroquet, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est pas nous qui adoptons le perroquet, c'est le perroquet qui choisit la personne. Un exemple, moi et mon épouse, on les soigne autant tous les deux. D'ailleurs, soigner, ça veut dire nettoyer leur cage. Bon, ça, c'est plus ma partie. Les nourrir, s'occuper d'eux quand ils sont malades, les prendre au nid quand il y a des bébés, les caresser, voir, etc., pour les sociabiliser. On s'en occupe à parité. Eh bien, souvent, les perroquets viennent plus vers moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Et on a eu l'exemple de personnes qui sont venues visiter l'élevage, une jeune fille qui voulait acheter un perroquet. Eh bien, c'est la première fois qu'elle venait, donc les oiseaux ne la connaissaient pas. Eh bien, on a sorti les loulous du Sénégal. De suite, ils sont allés vers la jeune fille. De suite. Pourquoi? On ne sait pas. Donc après, elle en a pris un. Bon, elle avait un feeling. Elle a pris une perruche qu'on a en extérieur, une calopsite. Il y a eu un coup de cœur. Le soir même, donc moi j'ai donné tous les conseils à avoir, à éviter, pour qu'elle et que son animal soient bien. Hein. Le soir même, elle l'avait sur le bras. C'est pas elle qui l'a forcé. Hein. Elle m'a dit, je l'ai pas forcé. Elle a mis la main dans la cage. Elle est montée dessus directement. Ça, elle doit avoir quelque chose, cette fille. Mais ça, on peut pas l'expliquer. Et l'oiseau a dû le ressentir. Bon, après, si on met les doigts, par exemple, si vous mettez le doigt dans la cage, ça ne veut pas dire qu'ils vous mordent, mais surtout, ils vont vous mordre. Alors, il y a des réactions à ne pas avoir. Un perroquet se sert de son bec comme moyen tactile. Bon, ils nourrissent les bébés avec leur bec, hein, on est d'accord? Donc, un bec de perroquet, c'est quand même puissant. Donc, si on a peur, si on y va à tâtons, vaut mieux pas y aller. Parce que le perroquet se dit, qu'est-ce que c'est? Ils sentent la peur. Donc, ils vont eux avoir peur, et c'est là où peut se passer une morsure. On sait qu'un perroquet, c'est grégaire, ça vit en groupe, le perroquet, mais c'est des oiseaux proies, c'est pas des prédateurs. Donc, leur premier instinct, ça va être, avant d'attaquer, de fuir. Donc, très rarement, vous allez être attaqué par un perroquet. Ça n'existe pas. À moins que ce perroquet-là soit vraiment acculé contre un endroit où il ne puisse plus fuir, et qu'à ce moment-là, il va se gonfler, s'ébouriffer pour paraître plus gros que ce qu'il est. Et à ce moment-là, peut-être il peut vous mordre. Ou si vous l'attrapez par surprise. Si vous l'attrapez d'un coup comme ça, à tous les coups, vous allez vous faire mordre. Hein. Et puis c'est assez puissant, hein, je veux dire aussi, donc ça fait mal, on va dire. Moi, je me suis pas fait mordre souvent. Je me suis fait mordre par le cacatoès les premiers temps, parce qu'il était un peu perturbé. Donc, moi, j'essayais de comprendre pourquoi il était perturbé, cet oiseau. Hein. Donc, il m'a attrapé, il m'a mordu. Bon, il n'y a aucun signe de méchanceté. Il a mordu parce qu'il avait peur. C'était pour se défendre. Mais ça, j'insiste bien là-dessus. Sinon, ça, en règle générale, ça ne mord pas les perroquets.
Mon petit perroquet vient de San Francisco. Il est vert devant et rouge dans le dos.
In vivo sur RCFM, dans l'univers de Gérald Chabannier. Cet éleveur amateur de perroquets nous accueille chez lui, à San Nicolao di Moriani, en Costa Verde.
Alors, le langage du perroquet, alors c'est des codes de communication. Le perroquet n'a pas de corde vocale, c'est un peu comme les ventriloques, mais c'est des super imitateurs, donc ça parle par le biais de mimétisme. Alors, tous les bruits, alors les animaux, les sonneries de téléphone, ça le fait sans réfléchir, et la voix, ils enregistrent, ils s'habituent, et ils font la voix. Nini, quand elle appelle Gérald, c'est la voix de mon épouse. Hein. On se trompe. Hein. Les premiers qu'on avait il y a 20 ans de ça, qui est décédée, la pauvre, elle imitait la sonnerie du téléphone. Mais à l'époque, j'avais le téléphone en haut. J'avais une de mes amies, le téléphone en haut. Et elle, moi, était lâchée. Et des fois, elle faisait le téléphone. Je courais. monter, je m'apercevais que c'était Zazou qui faisait le téléphone. Bon, ça c'est le langage. En fait, pourquoi le perroquet parle? C'est pas parce qu'il a envie de parler, c'est parce que du fait qu'il soit en captivité et qu'il vive avec l'être humain, il adopte le même langage que l'être humain. Si on sifflerait, on sifflerait. Si on taperait des mains, il ferait le bruit de taper des mains, par exemple. C'est un mode de communication qui, lui, s'est adapté à nous. Donc nous, on doit le rendre l'appareil. Et leur mode de communication, s'ils ont mal, par exemple, quelque part, ils vont pas dire « Christophe, j'ai mal à la patte, amène-moi chez le véto. » Mais ils vont communiquer pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, et si on ne comprend pas ce qui ne va pas, alors à ce moment-là, certains perroquets donc, sont victimes de piquage. Piquage, ça veut dire qu'ils s'auto-arrachent les plumes. Il y en a même qui se mutilent juste à se couper se mordre, se couper des doigts. Donc, c'est très important de faire attention donc, et de déceler, de comprendre. Alors, le langage du perroquet, il veut avoir notre attention, il va savoir nous la faire attirer en nous appelant ou en sifflant. Ceux qui ne parlent pas, par exemple, ils vont siffler, ils vont bouger, ils vont piétiner. Par exemple, elle, quand on a des fruits, on leur donne des fruits, hein, comme alimentation, elle va piétiner, elle va bouger comme ça, bouger les ailes. On sait qu'elle veut des fruits. Si elle ne veut pas, par exemple, qu'on la caresse, elle va nous repousser avec le bec. Madame, si je la mets là, elle se méfie, vous voyez, regardez. Elle sait que c'est moi, mais elle vous voit. Donc elle se dit, je ne sais pas jamais ce qui peut se passer. Elle n'a pas peur, elle reste, mais elle n'a pas envie d'avoir un contact plus proche. Sinon, leur contact se fait, comme je disais, essentiellement vers leur bec. Alors le bec leur permet de toucher la matière, de reconnaître la matière, savoir si c'est du fiable ou du pas fiable. Et certains perroquets sont même capables de dire à la matière que c'est. Donc on a des exemples de docteurs qui maintenant sont perroquets morts. Donc ça fait le tour de la toile pendant des années. Où est-ce qu'il reconnaît les couleurs, les formes, les matières. Il essaie de faire du bois, du plastique. D'ailleurs nous on a acheté des jouets, vous voyez. On n'a pas d'enfants en bas âge. On a acheté des jouets en bas âge pour faire reconnaître. Alors ils attrapent, ils doivent regarder les formes, les mettre dans les formes. Donc, ils le font facilement. Si on leur montre, ils le font facilement. Hein, par exemple, ils arrivent à ouvrir les cadenas. Des cadenas que nous-mêmes, on a du mal à ouvrir. Eux, avec leur bec et leur langue, ça veut la langue qu'ils font. Ils ouvrent le cadenas. Bon, une fois qu'on leur montre quelque chose, on était avec mes beaux-parents. On mangeait un midi, on leur ouvre. Et mon beau-père avait acheté une bouteille de bière. Vous savez, là, les bières Fischer, là, de la marque, mais qui s'ouvrent avec la capsule que l'on tire, là. On finit la bouteille, et à la fin, je dis à Yael Coca qui regardait le mâle d'Hongrie du Gabon. Je lui ai montré, je dis à mon beau-père comment faire pour l'ouvrir et la fermer. Bon, même. Il a regardé deux fois, il est venu, il a pris, toc, il a ouvert la bouteille. Attends, bon, c'est pas compliqué, hein. Il a pris la tenue, ouvert, tiré et poussé. Ça a une faculté impressionnante. Ça nous apprend que les animaux, on a beaucoup à apprendre sur les perroquets. Sur leur vie entre eux, si nous on pouvait être l'être humain en général, hein, je parle, être autant sociable qu'un perroquet, il n'y aurait plus jamais de guerre, il n'y aurait plus jamais de discorde entre les gens. Parce qu'entre eux, les perroquets, comme je dis, c'est un animal grégaire, donc il y a des codes de respect, des codes de territoire aussi, mais des codes de respect. Et chacun respecte l'autre. Et ce respect ne va pas jusqu'à à l'attaque. En fait, chacun connaît sa position dans le groupe, et chacun est respectueux de l'autre. Et de là, roule le monde, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc c'est le gris du Gabon. C'est ressemblant un peu à toutes les espèces d'oiseaux, hein. Il y a très peu d'oiseaux, enfin, des crochus solitaires, hein. Sa vie en groupe. Bon, la particularité du gris du Gabon, c'est que bien, c'est un perroquet qui est maintenant protégé, donc qui fait partie de l'annexe 1A. Pour pouvoir avoir un gris du Gabon, bien, c'est soumis à autorisation de l'État. Donc nous, on a le couple, on est suivi, même en tant qu'éleveur amateur, hein, on est suivi par le biais de cahiers que l'on tient sur l'élevage, sur les naissances, les décès. si on doit vendre un oiseau, on doit se séparer, prêter un oiseau à quelqu'un pour une repro, quoi que ce soit, on le note et les services de l'État sont au courant des mouvements de l'oiseau. C'est une bonne chose parce que ça permet de les référencer et de mieux les protéger. En fait, notre rôle, c'est plutôt un rôle de protection parce que c'est un oiseau qui a été vendu, prélevé trop longtemps de son habitat naturel pour des raisons de commerce. Un grès du Gabon, pour vous donner une idée de prix, chez nous, éleveurs, le prix est constaté entre grosso modo 1000 euros, entre 900 et 1200 euros, on va dire, hein, suivant bon, les élevages, mais grosso modo c'est 1000 euros. Dans les animaleries, on peut le trouver à 2 fois 2000 le prix, entre 2000 et 2500 euros. Le commerce a été en fait que les gens ont prélevé dans la nature ces oiseaux-là, en les vendant à bas prix, pour une question de commerce. Le plus cher, c'est les cacatoès. Le cacatoès coûte grosso modo 1400 euros l'unité à l'achat. C'est même pas une question de prix, les rats sont chers aussi, il y a des oiseaux qui valent jusqu'à 20 000 euros, enfin, moi j'en ai pas. N'importe qui, 1000 euros, c'est de l'argent, mais c'est pas tant que ça. Il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Bon, nous on fait pas de commerce, mais demain on devrait faire un commerce avec, on est obligé de vendre cher, parce que grosso modo, les puces électroniques ça vaut 50 euros. Par oiseau. On va être obligé de le faire. Il faut, quand on vend un oiseau, si demain je vous vends cet oiseau, je vais devoir vous fournir des tests de maladie. Ça coûte grosso modo encore une centaine d'euros pour tous les tests. Donc déjà, je ne peux pas le vendre avant l'âge de 6 mois. Donc imaginez, le bébé, je vais dire n'importe quoi, il est en janvier. Je ne peux que vous le vendre 6 mois après. Donc, tous ces tests que je vous ai parlé sont à ma charge. Donc, vous allez me donner 1000 euros. Mais dessus, on va enlever quoi, la nourriture, etc. On va bien enlever 300 euros. Vous voyez, donc, on ne peut pas... 700 euros sur 6 mois, ça fait 100 euros par mois, on va dire, grosso modo. Donc, on ne peut pas vivre... on ne peut pas vivre d'une passion. D'ailleurs, je pense que quelques... passion que ce soit, on ne peut pas vivre avec. Fan de quelque chose, puis c'est pas notre but. Après, il y a des élevages pros, hein, qui eux vont avoir par exemple 50, 100, 200, 400 perroquets. Donc eux, ils vendent de ça en masse. Donc ils vont vous les vendre, allez, on va dire, un peu moins cher, mais dans la masse, ils s'y retrouvent. Mais c'est des élevages pros que j'appelle, mais pas. Pas dans le sens du perroquet, c'est pour faire du commerce. Demain, vous gagneriez des tortues ou n'importe quoi, ça serait la même chose. Alors qu'un éleveur familial comme nous, on est plus vers la passion et l'amour que vers le business. Hein.
In vivo sur RCFM, dans l'univers de Gérald Chabannier. Cet éleveur amateur de perroquets nous accueille chez lui, à San Nicolao di Moriani, en Costa Verde.
Vous avez Ben. Ben, c'est une connure de Molina, Pereira Molinae. Lui, il est TS, type sauvage, donc c'est ce qu'on retrouve dans la nature. Il est en Australie, lui, aussi, en Amérique du Sud. Bon, ma femme, elle est plus chevronnée là-dedans, dans les origines. Et un peu la génétique. Ma femme, elle est plus spécialisée dans savoir si on la coupe telle couleur avec telle couleur, on va obtenir ça et ça, ça peut donner mâle ou femelle, moi c'est pas trop mon truc ça, mais bon. Alors cet oiseau, on l'a récupéré, il a le bec cassé, la mandibulotte, elle a été sectionnée par un autre gros perroquet, d'après ce qu'on nous a dit. Le bec, à ce niveau-là de coupure, ne peut plus repousser. Un bec, c'est comme un ongle, ça pousse, donc comme je dis aux gens, il faut leur mettre souvent des perchoirs en bois, ou donner des branches afin qu'il gruge, afin qu'il se lime le bec. Le bec et les ongles des pattes, et les griffes des pattes. Donc lui, ne pouvant plus gruger, eh bien on est obligé d'y broyer tous les aliments, voilà, et de faire limer, de limer. Donc nous, on le fait faire par le docteur parce qu'il y a une technique un peu particulière à avoir. Limer le bas du bec qui, lui, pousse. Du fait, il n'y a plus rien pour limer. Donc c'est pas compliqué à faire de limer le bec, mais il faut pas le limer trop bas, parce que sinon on a le même problème, ça repousse plus. Donc nous on le fait faire par un docteur Stöckel qui est un professionnel Ah, chacun son métier. D'ailleurs, on ne se substitue jamais à donner, nous, des conseils sur la santé des animaux. Ce n'est pas notre métier. On donne des. Les gens nous demandent par Internet ou ils m'écrivent par mail ou m'appellent en me disant, mon oiseau, il fait ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je peux déceler un problème, mais je ne suis pas habilité et je ne suis pas capable de le résoudre. Le problème, il faut s'adresser aux vétérinaires qui sont là, qui ont fait des études pour. Alors, les maladies du perroquet, vous en avez plusieurs. Donc, il y a la maladie du bec et des plumes, qui peut entraîner jusqu'à la mort hein, du perroquet, suivant le stade d'évolution. Vous avez la maladie de Pacheco, vous avez. Enfin, il y a beaucoup de maladies spécifiques à l'oiseau, la grippe aviaire, hein, donc. Ils peuvent l'avoir aussi, hein, je veux dire, parce que bon, nous, on n'a pas ce problème parce qu'ils sont dans une bonne partie qui sont dedans. C'est distribué par les fientes. Alors toujours faire attention à ce que les cages et volières soient propres. Hein, donc l'eau, alors ça c'est ça n'a pas de prix, il faut qu'elle soit vraiment nickel chrome. Les gamelles de nourriture pareil, parce que les oiseaux, vous avez vu, quand ils mangent, ils se mettent dessus, donc il peut y avoir des fientes dedans. Toujours faire attention à ça. On ne peut pas le définir si un oiseau est malade ou pas. En fait, pour faire ça, pour vraiment, nous, tous nos oiseaux, on subit des tests. Quand on achète un oiseau, même chez un éleveur, même ce dernier aura fait des tests, il faut faire une quarantaine. C'est obligatoire. Il ne faut pas dire l'oiseau il est sain, il n'est pas malade. Non, quarantaine obligatoire, pourquoi? Premier point, l'oiseau arrive dans une nouvelle famille. Il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les bruits, il ne connaît pas les gens. Donc il a besoin d'être rassuré. Rassuré, ça veut dire qu'il va être mis dans une pièce à part. Ok. Ça ne veut pas dire parce qu'il est à part qu'on n'aime pas. Au contraire, il va s'habituer au bruit, s'il y a des enfants, aux chiens, aux chats, à n'importe quoi. Il va prendre son espace visuel. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont les dangers? Moi, on a montré tous les dangers qu'il pouvait y avoir aux oiseaux, les vitres. Alors, les vitres, alors ça c'est. Ils partent, ils volent, les bébés, ils prennent, ils volent, ils vont les dehors, ils tapent dans la vitre et ils se tuent. Voilà. Donc, montrer tous les dangers qu'il peut y avoir dans une maison. Et l'oiseau, il retient, il touche, il sait ce que c'est. On leur dit, bon, nous on a mis des rideaux partout, bon, peut-être que ça amortisse si le problème viendrait. Mais une fois qu'on leur a montré, ils y vont plus. Hein. Ça, l'oiseau en quarantaine va regarder et va intégrer tout ça. Une semaine, 15 jours, va permettre à cet oiseau-là de voir son comportement et si il risque de développer une maladie. La maladie peut se développer au bout de 15 jours, 3 semaines, même si c'est un oiseau sain. Parce que le stress, parce que le changement d'environnement, pourquoi on ne sait pas. Les causes sont comme ça, quarantaine, un oiseau sain qui peut être porteur. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on va voir son comportement. Si on a des doutes, il faut consulter. Il ne faut pas hésiter. Alors, si on n'en a qu'un, bien, cet oiseau pourra vivre un certain temps avec la maladie. Si on a plusieurs oiseaux comme moi, par exemple, si j'ai le malheur de ne pas, je ne le ferai pas, hein, mais de pas faire la quarantaine et que cet oiseau soit malade, ça me contamine tout l'élevage. Hein. Alors là, après, tu es obligé de prendre des décisions. Soit on euthanasie tout le monde. Pas faire vivre un oiseau avec cette maladie parce que c'est une maladie dégénérante. C'est pas comme si Ben, par exemple, lui, il a le bec coupé, mais il est heureux. Il est heureux, il fait sa vie d'oiseau. Dans la nature, il ne pourrait pas vivre, mais en captivité, ça y va, aucun souci. Malade, après, il y a les mamans qui s'atrophient, il y a tout un tas de choses qui arrivent. Bon. Donc, quarantaine obligatoire, c'est même 45 jours. Moi, je fais 45 jours, 3 semaines d'observation, maladie. Après, encore, on va dire, une semaine et demie de rapprochement. C'est-à-dire que la quarantaine dans la pièce là-bas, je les rapproche de l'espèce, mettons, qui ressemble, pour qu'ils se communiquent à travers leurs volières respectives. Et ensuite, si j'ai besoin, je les mets avec la colonie directement. Et afin mais ils seront déjà connus avec les membres de la même espèce. Ce ne sera pas un étranger qui arrive. Donc ça va éviter de faire des tensions au sein de la colonie, du rejet, etc. Puisqu'ils vont avoir communiqué avant. Hein. En bas, nous avons donc des... les agapornis sont des... moi, je connais le nom en latin. Après, c'est inséparable. Alors, la femelle est à l'intérieur. Elle est toujours dedans. Elle est blanche. Et donc, le mâle, là, c'est la couleur que l'on a à type sauvage. Donc, c'est inséparable. C'est super mignon comme petit oiseau. C'est intelligent. Mais c'est très, très puissant. C'est un bec... super puissant. Hein. Bon, sinon, c'est agréable à vivre, ça chante un peu. Hein. Les gens, grosso modo, n'aiment pas trop ce type d'oiseau. Alors pourquoi, je ne sais pas, parce qu'il mérite quand même d'être connu. Les gens, ce qu'ils nous demandent, c'est les pirurhas, parce que c'est quand même le petit perroquet, tout petit, mais ça a vraiment toutes les attitudes de perroquet, alors que eux, un peu moins. Après, bon, bien sûr, les gris du Gabon, cacatoès, et les calopsites, qui sont des petits cacatoès. En fait, c'est les plus petits cacatoès. Perruche de Bourg, Australie. Là, vous avez toute la colonie. Alors, avec les parents, bon, bien sûr, les auditeurs ne pourront pas le voir. Hein. Il y a les parents, les grands-parents et les enfants. Donc, celles que vous voyez. Alors, la perruche de Bourg, c'est la perruche, c'est des amours de perruche. C'est très calme. Si vous avez envie de vous faire plaisir, ou une personne âgée, ou quelqu'un qui a vraiment envie de zénitude, pas de cri, il faut prendre la perruche de Bourg, parce que c'est un animal très doux, un peu bruyant, bon, et très joli. Donc, ce que vous voyez au fond, enfin, que vous ne voyez pas, mais vous, Christophe, donc, ils ont le ventre de couleur rose pâle. L'arrière de la queue bleu et le dessus est gris. Gris moucheté, ça c'est ce que l'on trouve dans la nature à l'état sauvage. Donc là c'est pareil, pour eux il faut avoir des autorisations. Tout ce qui est sauvage, il faut avoir des autorisations spéciales pour les détenir. Hein. Fait qu'on demande auprès des services de l'État. Hein. Il ne faut pas de diplôme spécifique. Hein. Donc et ce qu'on trouve dans le commerce, bien c'est plutôt sur les roses. Alors donc elles sont toutes roses, hein, ventre, dessus du dos, il n'y a que les bouts des plumes qui sont noires et où il y a le croupion derrière, blanc. Donc ça ce sont les mutations. Hein. Donc après les mutations, ça veut dire c'est le changement de couleur. En fait on va prendre un individu de couleur plus rose, plus foncé ou rose plus pâle, qu'on va coupler avec un autre individu encore plus pâle et on pourra obtenir des couleurs différentes. Après là, on rentre de la génétique. Moi, ma femme s'entend un peu plus que moi. Moi, ça me passionne pas plus. C'est passionnant, mais c'est très compliqué parce qu'il faut rentrer vraiment dans des codes génétiques et presque faut avoir fait un peu de doctorat là-dedans. Hein. Mais bon, c'est pas important pour élever des oiseaux. Hein.
Il entra dans une telle colère. Que tous les meubles en tremblèrent, que le perroquet dans sa volière en demeura interloqué.
In vivo sur RCFM, dans l'univers de Gérald Chabannier. Cet éleveur amateur de perroquets nous accueille chez lui, à San Nicolao di Moriani, en Costa Verde.
Ici, bon, là, alors, on a fait une entorse, mais bon, on a que des becs crochus, alors que là, on a des becs droits, qui sont mandarins et gould. Donc, on a récupéré ces oiseaux car une dame, la pauvre, est décédée et sa fille partait donc vivre sur le continent et n'avait pas du tout la passion hein, des oiseaux. Elle a dit je ne peux pas m'en occuper. Donc, elle a connu notre élevage, elle est venue nous donner ces oiseaux. Ce sont des oiseaux vraiment sympathiques, très très beaux, avec des couleurs vraiment très vives, notamment le gould. Là, il est en pleine mue. Mue, ça veut dire changer le plumage. Hein. Et ça, c'est des mandarins. Alors, les becs droits. On a bien les comparaisons avec les becs crochus. On s'aperçoit que même si ce sont des oiseaux, ils n'ont pas du tout les mêmes attitudes. Attitudes d'intelligence, on va dire. Vous voyez, regardez, à côté, la calot, elle est là, elle nous regarde. Ce qu'on fait. Elle est intriguée. Eux, ils font leur vie. Ils s'inquiètent même pas de ce qui peut se passer. On n'a pas les mêmes rapports. Même si on les attrape, même si on les manipule. Mais... On ressent pas ce côté comme on a avec les becs crochus, où est-ce qu'ils vont venir faire câlin, poser la tête. On ne sait pas s'ils doivent apprécier certainement. Mais je n'ai pas assez de compétences en bec droit pour pouvoir en parler plus. Il faudrait demander à Jean-Pierre de Rivu, qui est un spécialiste connu et reconnu de par le monde, qui lui est spécialiste des becs droits et qui pourra certainement en dire plus long. D'ailleurs, je le salue au passage, Jean-Pierre. À côté, nous avons notre petite perruche grise, donc qui est une colorie assez rare. Bon, c'est un edged. Donc, après, nous avons les faces blanches, qui est un mâle. Et elle, la pauvre, elle a une aile cassée. Donc, c'est pour ça qu'on l'a isolée. On ne peut pas la réparer, docteur. Skull ne peut rien faire parce que c'est trop cassé, près vraiment de l'aile, et on ne peut pas faire d'attelle ou quoi que ce soit. Donc, elle vit avec... Elle est alerte, elle se nourrit, ça la gêne pas. On sait que un bec crochu va plutôt se déplacer volontiers en grimpant qu'en volant. Alors, il y en a qui volent, hein, donc ils volent tous, pratiquement, mais ils vont préférer grimper. Voilà ce qu'on peut dire sur elle. C'est une perruche qui alors on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle encore, parce qu'il faut qu'elle soit plus âgée, doit avoir 7 mois, là, 6 mois, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Un cocotte ? On dit cocotte, nous, mais on ne sait pas. c'est peut-être un garçon. Hein. Hein, vous voyez, bon, c'est pas du tout sauvage, hein, c'est pas du tout agressif. Hein. À côté, nous avons les youyous. Globalement, un perroquet, c'est calme. Alors, les gens nous demandent la question que les gens se posent. Ouais, avec tous ces oiseaux, vous ne devez pas dormir. Non, la nuit, les oiseaux dorment. Ça fait un peu de bruit au coucher du soleil et au lever du soleil, c'est tout. Après, c'est des animaux. Alors, on va dire, est-ce qu'un chien aboie ? Alors, il y a des chiens qui aboient toute la journée, il y a des chiens qui aboient très peu. Lui, c'est le mâle, c'est Ken. Et la femelle, c'est Lola. Alors, on a récupéré Lola. En fait, on avait Ken, parce qu'un monsieur de... Je crois qu'elle était sur Marseille ou Toulon, je ne me rappelle plus, on est allé le chercher, ne pouvait plus s'en occuper, il partait à l'étranger, et il ne pouvait pas l'emmener, donc il a arraché le cœur de nous le donner, mais il savait qu'il allait être bien avec nous. Bon, parce que c'est pareil, quand on doit donner un oiseau, on se renseigne un peu sur qui va l'avoir, hein, c'est normal. Donc lui, c'est un EAM. Alors EAM, ça veut dire élevé à la main. Élevé à la main, ça veut dire que c'est l'homme qui s'est substitué aux parents et qui a donné à manger. Donc ça veut dire qu'il est, on en fait n'importe quoi. C'est un oiseau qui est presque humain, entre guillemets. Et nous, enfin nous, dans notre propre élevage, on n'est pas trop pour ça. On préfère que l'oiseau reste oiseau et soit copain. Ça, c'est notre façon de penser. Hein. Donc, je ne critique pas ceux qui font de l'EAM. Donc, lui, il est, on s'est dit, il était seul, même s'il était avec des autres perroquets, mais les autres perroquets ne sont pas de son espèce. Donc, pas le même code de communication. Donc, on a dit, on va trouver une petite femelle qui a 9 mois, la femelle. Parce que même si ça ne deviendrait pas un couple, parce qu'ils se choisissent, c'est pas parce que moi j'ai mis la femelle dedans qu'ils vont forcément... s'il te plaît, hein, on est d'accord. Donc, j'ai mis une femelle parce que c'est la même espèce et ils ont les mêmes codes. Donc, ça rend un peu moins humain cet oiseau qui est super sympa au demeurant. Elle aussi. Alors, Lola, elle était en volière. Alors, l'extraordinaire, où on s'aperçoit quand même que ce sont des oiseaux intelligents et qui comprennent vite, c'est que en volière, ça veut dire que la personne ne s'en occupait pas, mis à part le manger, le boire, elle la touchait pas. On l'a après la quarantaine, on a rapproché les cages, donc pour que les deux communiquent, mais communiquaient déjà entre eux. Donc on les a présentés en territoire neutre, donc ça veut dire à l'extérieur de la cage. Donc, et quand on a vu que ça se passait bien, on a introduit la femelle en premier, et le mâle ensuite. Bon, on est resté sous surveillance quand même, on s'est dit, on sait jamais, ça peut arriver que y ait des bagarres, hein. ça peut arriver. Hein. Bon, on a surveillé, tout s'est très bien passé, et ils s'entendent à merveille. Voilà, donc les youyous du Sénégal, c'est du Sénégal, donc ça vient ça vient d'Afrique, mais il n'y a aucun rapport avec les gris du Gabon, qui eux sont du Gabon et qui sont diamétralement opposés. Et entre eux, ils s'entendent très bien. Bon, ils vont se voir. C'est sociable. Ils sont sociables. Nous, ce qu'on veut, c'est que les animaux soient sociables. Et après, que les personnes qui souhaitent en acheter, qui achètent. Moi, mon rôle en tant qu'éleveur aujourd'hui, c'est de pouvoir expliquer aux gens, même s'ils n'achètent pas d'oiseaux, c'est pas grave, qu'ils viennent me voir avec plaisir, même s'ils vont acheter des oiseaux chez quelqu'un d'autre. Mais surtout, qu'ils sachent ce qu'ils font. Parce qu'après, on va se retrouver avec des oiseaux qui vont être malheureux dans leur entourage. Et au final, eh bien, où on va les emmener chez le vétérinaire qui va les redistribuer auprès des éleveurs référencés. Moi, je suis référencé au niveau national, au niveau de l'élevage, hein, et auprès du CDE. Ou alors, ils vont directement les donner aux éleveurs, ou alors le pire des cas, s'ils s'en séparent, et ils le donnent à n'importe qui. Et alors, l'oiseau part dans un cycle de mains, de maisons différentes. Alors là, ça le pomme complètement. Imaginons-nous, demain, on nous met à tel endroit, puis après à tel endroit, encore à tel endroit, encore à tel endroit. On va plus savoir où on est, quoi. C'est une décision. N'importe quel animal, même un chien, on va pas prendre un chien où il est beau, c'est un bébé, on le prend. Et bon, il faut savoir ce qu'on fait. Un perroquet, encore un chien, comme je disais, on peut l'amener partout avec nous. Et il y a aucun souci. Il n'y a pas de test de rage. Un perroquet, c'est pas la même mayonnaise. Lui, il a sa... chaque oiseau, on a des cages de transport. Hein. Mais lui, par exemple, il avait sa cage de transport. Quand on y monte sa cage de transport, c'est un peu comme ça, lui montrer la laisse à un chien pour aller promener. Et, bon, là, c'était son propriétaire d'avant qui l'avait habitué comme ça. Donc, déjà, parler quand on choisit d'acheter un animal, n'achetons pas un coup de cœur quand on voit ça dans une animalerie ou chez un professionnel. Parce que c'est pas parce que lui il va m'aimer qu'il va forcément vous aimer. Donc il faut que l'oiseau il vous choisisse. Et moi ce que je conseille toujours aux gens, même aux gens que j'ai vendu des jeunes oiseaux, c'est de venir plusieurs fois, de venir voir la nichée, de regarder, de venir autant de fois que vous voulez, et prenez celui qui va vous choisir. C'est le plus important, et là vous aurez des complicités extraordinaires, plus même qu'avec un chien, je vais dire. Avec un chien, bon, ça c'est très complice de l'être humain, mais l'oiseau c'est encore des choses, on peut leur apprendre à faire plein de choses qu'un chien ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas faire compter un chien. Il y en a qui le font, je vois dans certains cercles qui le font aboyer, mais eux ils vont compter, ils vont vous dire exactement. C'est vraiment plus intelligent que ce qu'on peut y imaginer. Alors au niveau de la nourriture, on va en parler. Tous ont une nourriture appropriée à leur espèce, bien évidemment. Hein. En règle générale, ce sont des granivores et frugivores. Donc, on peut leur donner des fruits, des légumes. Ça, on leur donne entre 2 et 3 fois par semaine. Hein. Donc, les fruits de la saison. On se régale avec la pastèque, ça fait l'unanimité, et le melon. Et fruits secs aussi, tout ce qui est noisettes, amandes, ça c'est bon. Cacahuètes, oui, mais pas trop. C'est gras et c'est pas forcément bon. Mais bon, ça leur fait plaisir, de temps en temps, on peut leur donner pour... en tant que friandise. Cacahuètes naturelles, pas des cacahuètes salées ou qu'on a en paquet, ça c'est... faut pas donner. Après, en alimentation, alors plusieurs choix sont disponibles. Il y a du pour, il y a du contre. Donc nous, on a opté pour on verra tout à l'heure dans la pièce à côté, des extrudés. Des extrudés, c'est comme des croquettes. C'est des croquettes qui ont été étudiées par des éleveurs et des fabricants qui correspondent au mieux à l'alimentation des oiseaux. Alors il y en a qui sont complètement contre, parce que c'est vrai que c'est pas intéressant. C'est des croquettes, bon, il n'y a rien d'intéressant. Or, quand on casse, par exemple, une noix ou une noisette, c'est intéressant. On casse la coquille, on va chercher. Donc, bon, maintenant, c'est une question de facilité aussi pour l'éleveur. Même pas de coût, parce que ça vaut très cher, hein, les paquets. Donc, c'est pas une question d'économie. Mais Bon, nous, on a opté ça. Alors, le choix, il est facile. On leur met à disposition les croquettes. Et si on voit que les extrudés, en fait, si on voit que ça marche, on leur laisse. Sinon, on opte pour une autre alimentation. Pourquoi on dit qu'il faut s'intéresser à l'animal? Tous les oiseaux ne mangent pas la même chose. Alors, pour moi, l'avenir, il est tout simple. On va rester comme ça. Donc, on va rester... parce que il y a des étapes et je ne veux pas, moi... Bon, même si j'ai plus d'oiseaux, c'est pas le problème d'avoir ça. C'est qu'après, il faut pouvoir suivre financièrement. Déjà, il faut y penser parce que c'est tout des bouches à nourrir. Encore, ça, c'est pas grave. S'il y a des maladies, s'il y a régulièrement des visites chez le vétérinaire, c'est comme un animal, hein, c'est un animal de compagnie en fait. Hein. Et donc ça fait de suite de l'argent dépensé, donc il faut être sûr d'avoir les moyens financiers de le faire, être sûr d'avoir du temps. Moi, je vous ai dit, mon métier, il est dans l'animation, la sonorisation, donc j'ai du temps. Donc ma femme aussi, elle travaille dans l'animation, donc ça fait qu'on ne travaille pas dans les mêmes heures, donc il y a toujours quelqu'un qui va être là, qui surveille les oiseaux. Maintenant, on ne peut pas partir demain si on doit partir un mois hein, aux États-Unis. J'ai un fils qui vit aux États-Unis, par exemple, je ne vais pas pouvoir. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui sache s'en occuper, qui va venir à l'avance pour... cette personne connaît ses animaux. Enfin, c'est, vous voyez, il y a quand même des sacrifices. C'est des sacrifices mesurés. Hein. Ça, alors bon, nous, parce qu'on en a plusieurs, maintenant on en a un ou deux, c'est pas pareil. On prend une cage, on l'amène avec nous. Quoi. C'est, alors l'avenir de l'élevage, moi, ma passion, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir donner à la Corse un zoo, un parc animalier. Ça serait une passion. Mais j'ai pas les moyens financiers de pouvoir le faire. Et légalement, il faut trop de choses. Donc ça demanderait, il faut d'abord être agriculteur, je ne le suis pas, pour exploiter un terrain. Et après, bon, c'est une autre dimension. C'est vrai que la Corse, c'est un pays merveilleux, une île merveilleuse. Et avoir un parc animalier, ça serait vraiment le top. Enfin, pour les enfants, pour les nôtres et pour même les gens du continent. Hein, c'est, surtout, il y aurait vraiment la place, on a de l'espace, on a vraiment tout. Mais ça, c'est un rêve. Hein, ça ne veut pas dire qu'un jour un mécène nous appelle en disant voilà, j'ai quelques millions à te donner, on fait ça. Mais c'est vraiment. Mais c'est pas ma priorité non plus. Si ça se fait, c'est bien. Dans mes projets futurs, moi j'aimerais aller travailler une saison auprès de. J'ai déjà pris des contacts avec des parcs animaliers du continent, qu'on voit souvent le zoo de la Flèche, qui sont pas des amis, mais on est souvent en contact avec, hein, pour vraiment encore plus approfondir la connaissance, parce que c'est au pied du mur qu'on voit un maçon. Hein. Moi, ma connaissance, je l'ai faite par étude, en allant voir des gens spécialisés dans les perroquets, en discutant, en lisant énormément. Bon, rien ne vaut l'expérience sur le terrain.
C'était In Vivo sur RCFM avec Gérald Chabanier, éleveur amateur de perroquets en Costa Verde.
RCFM In Vivo avec Christophe Zagaï, à réécouter en podcast sur bleurcfm.com. Thank you.